littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. La politique du vampire. Morgane Cossarieux, Morgane Stankiewicz, Jana Debatz. Modération, Olivier Gechter.
Bonjour à tous. Alors, on en parlait un peu en off, vous êtes très impressionnants. Cette salle est assez intimidante et en plus vous êtes nombreux. Ça fait à la fois plaisir et très peur. Donc on a confiance, vous allez être gentils avec nous. Parce que comme tout auteur traitant des vampires, tout le monde est très gentil ici. D'ailleurs, pour parler vampire, la politique du vampire et toutes ses déclinaisons, on a, je pense, le meilleur trio possible sur le sujet, honnêtement. C'est elle. Dont Morgane Cossarieux, qui est d'ailleurs romancière, autrice d'essais, traductrice, plutôt spécialisée dans le vampire jusqu'à présent, il faut être franc. Alors normalement, vous verrez dans quelques minutes les couvertures de tout le monde tourner, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Hein. Toi, tu as commencé avec ton premier roman « Dans les veines hein. ». C'est suivi de... façon de parler de « Je suis ton ombre » et puis une série young adulte « Rouge toxique » et « Rouge Venom ». Quelle maison d'édition, par contre
Naos, Rouge Toxique, Naos. Rouge Venos.
D'accord. Également, tu as fait quelques essais, dont Vampire et Bayou. Dès que vous verrez l'affiche, vous allez adorer. Par contre, je crois que c'est épuisé.
Oui, Vampire et Bayou, on ne peut plus.
Dommage. Trouver. Mais il y a toujours moyen de l'avoir d'occasion. Et qui vient de sortir. Alors, ça, tu as un peu abandonné les vampires. J'espère qu'ils ne t'en voudront pas trop. Avec Vertèbre, hein, oui. Au Diable Vauvert. Un titre craquant, si j'ose dire. À ta droite, nous avons une autre, Morgane. Ça va me faciliter la vie, ça, c'est pratique. Donc, Morgane Stankiewicz.
Bonjour.
Autrice et éditrice. Alors, en tant qu'autrice, surtout une novella sur le vampire, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Rappelle-moi le titre.
Meredith.
Meredith, voilà. Et tes maisons d'édition s'appellent Noir d'Absinthe, où là, par contre, tu as plusieurs romans édités. Alors, plutôt du vampirisme gothique, c'est ça. Dont le roman de Louise, c'est Louise.
Elle a Vert de Lierre, voilà. Et Asphodel.
Voilà, Louise de Haas, vous verrez également une très jolie couve de couleur verte, on en reparlera. Et qu'on ne présente plus ici, Jana Debatz, hein, mais je la présenterai quand même, hein, je vous rassure. Donc, notre bien-aimée déléguée artistique des Utopiales, et qui est particulièrement connue pour son cycle de Navarre, la métaphysique du vampire et toutes ses suites. D'ailleurs, Navarre, qu'on va bientôt revoir. En rayon, si je ne me trompe pas.
Oui, il y a un recueil des nouvelles de Navarre qui sont éparpillées un peu partout.
D'accord.
Qui vont être réunies et qui vont finir le cycle définitivement.
Très bien. Et côté essai, tu as quelque chose aussi?
J'ai pondu un truc dans le bouquin sur la Le Guin. J'ai fait un article sur le mansplaining dans le roman de... Je ne sais plus qui, tiens, j'ai un trou. David Brin. Dans La jeune fille et les clones. Et là, je bois.
Non, mais c'est pas grave.
Je suis au bout de ma vie, hein. Faut pas m'en vouloir. Alors, je vous déconseille d'embrasser Claude Eken. Hein. Il a un rhume carabiné, puis il est généreux avec.
En tout cas, trois spécialistes du vampire, et chacune avec une couleur différente. Je peux essayer de donner les couleurs et puis vous me corrigez si vous n'êtes pas d'accord. Donc là, quand même, on est plutôt sur du vampire punk.
Oui, hein. Oui, oui.
Là, il n'y a pas photo. On est plutôt sur du vampire gothique. Et alors, toi, c'est plus moderne, je dirais. Tu es quand même un petit peu sur le 20e siècle du vampire, mais il y a quand même un petit côté gothique aussi.
Alors, c'est un vampire, donc il a un fond gothique. Il ne peut pas sortir non plus comme ça de l'air. Mm-hmm. Mais c'est un vampire de science-fiction,
ouais.
Le mien.
Et c'est donc on a vraiment trois couleurs dans le temps. Alors par contre, enfin moi je suis un modérateur, donc à la limite si je connais rien au vampire, c'est pas grave. Et ça tombe bien, c'est le cas. Et du coup, vous allez me répondre à mes petites questions de gros béotien. Déjà, qu'est-ce qui vous a fait tomber dedans quand vous étiez petit?
Je commence.
Oui, vas-y, on va le faire dans l'ordre.
Ouais. Alors moi, je suis tombée dans le vampire à 8 ans par entretien avec un vampire, d'Anne Rice. Et ce qui a fait que j'ai aimé ça, je pense que... alors moi, j'étais très fan de Dragon Ball Z et tous ces gens avec des pouvoirs incroyables. Et je pense que j'ai vu ça aussi dans le vampire. Donc le côté immortalité, télépathie, hypnose, force. Ça me rappelait Dragon Ball Z et ce que j'aimais chez Dragon Ball Z. Et aussi, à 8 ans, ben, je n'avais pas spécialement de sexualité, hein, comme j'imagine beaucoup d'enfants de 8 ans. Et du coup, voir cette sexualité vampirique qui va passer par le sang et pas spécialement par les organes génitaux, bah, c'était une première approche pour moi de ça. Et je pense que c'est ça qui a, entre guillemets, éveillé mes premières approches de la sexualité. Et c'est pour ça que c'était aussi fascinant pour moi à cet âge-là et que ça m'a énormément marqué.
Et qu'est-ce qui fait qu'on y reste, du coup, ton premier roman, forcément, c'était vampire ou tu avais d'autres idées, ça choisit parmi...
Non. Je pense que les personnages de vampires, ça m'a toujours hanté dans mon adolescence. Je m'échappais dans ma tête en pensant aux vampires. Ensuite, j'étais très très fan de la série Buffy contre les vampires. Je vivais dans un petit village paumé où il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Donc, les vampires, c'était ma porte de sortie. La promesse d'une vie nocturne rigolote et incroyable que clairement, moi, je ne pouvais pas faire dans mon petit bled.
Oui, l'ennui est vraiment une très grande force créatrice. On ne s'ennuie pas assez de nos jours, je pense. Et Morgane, de ton côté?
Alors, le premier contact avec les vampires a été traumatisant. Je devais avoir 8 ans aussi et j'ai vu le bal des vampires qui m'a fait peur au possible. J'ai surveillé pendant des mois si mes parents avaient un reflet dans le miroir et c'était vraiment une phobie en fait. J'ai commencé par la phobie, mais ce qui est passionnant avec le vampire, c'est que la peur et l'attraction vont souvent de pair. Et j'y suis retourné bien plus tard avec Buffy aussi. Donc, quand j'étais plus ado, c'est l'époque aussi où je découvrais le rock gothique avec Evanescence. Maintenant, c'est un peu has-been, mais à l'époque, c'était pas mal. Et c'est aussi là que j'ai vu les films des années 90 qui m'ont beaucoup marqué. Donc, Entretien avec un vampire, la même référence, hein, forcément, Anne Rice. Et donc, je ne vais pas revenir dessus. Enfin, on en reviendra dessus bien plus tard parce qu'il y aura beaucoup à dire sur Anne Rice. Et puis aussi le Dracula de Francis Ford Coppola, qui est une interprétation magnifique. Et tout ça m'a non seulement réconcilié, mais en fait passionné. Et j'ai plongé dedans avec autant d'envie que je le fuyais avant. Donc, une relation très particulière avec le vampire qui me hante depuis vraiment très longtemps, du coup.
Et Jeanne?
Alors, comme je suis un peu plus âgée, disons poliment, que mes petites camarades, on n'a pas tout à fait le même départ, bien qu'on a les mêmes jalons après. Le bal de les vampires, je l'ai vu tranquillou. Le seul truc qui m'ennuyait, c'était la jeune blonde dedans, parce que bêtement, mon père m'avait raconté ce qui lui était arrivé après. Donc Charles Manson, là, oui, lui, il m'a effrayé, mais alors le bal des vampires, pas du tout, parce que j'étais plus grande et ils étaient franchement ridicules, hein, ces totos-là. En revanche, il y a deux textes. Moi, je suis rentrée par les textes. Le premier, c'était Carmilla de Sheridan Le Fanu, et le second, c'était Chamblot. Alors, on peut. De Catherine Moore. On peut discuter de la nature vampirique de Chamblot, mais ça sera un autre jour, je suis trop fatiguée. Hein. Ces deux textes, effectivement, Morgane l'a dit tout à l'heure, sont imprégnés de sexualité, parce que c'est un des fonds et des thèmes traversants chez les vampires. Ce que je trouvais fascinant dans Carmilla, c'est que c'était des filles. Comme je suis bisexuelle, si vous voulez, c'était la première fois que je trouvais dans la littérature un exemple, même en sous-main, parce qu'il n'est pas très courageux non plus, hein, Le Fanu. Hein, il ne vous le colle pas tellement frontalement que ça. Ça m'avait particulièrement intéressée, parce que c'était un genre de modèle. À, pas forcément à suivre, mais tuer ses amants, c'est pas terrible. C'est pas ce que j'envisage non plus. Mais donc voilà, c'était fascinant pour moi, notamment à cause de ça. Mais pas seulement, bien que j'avais 14-15 ans et que c'était le bon moment pour être fascinée par ce genre de choses. Non, moi, ce qui me fascinait, c'était la liberté. Ah là là. C'était bien plus orgasmiste que la liberté que tout le cul du monde. Et ces gens, les vampires, ils sont absolument libres. Alors, ça se paye. Mais dans les histoires que je lisais, ils étaient totalement libres, notamment du capitalisme.
Ben justement, on en a beaucoup parlé avant, on a mangé ensemble, tout ça. Bon. On a déjà fait la conf avant. On vous a trompé, en quelque sorte.
Bon. Tu m'as trompé avec une autre conf de vampire.
Chut. Ma femme peut regarder. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même fait pas mal de liens qui m'ont tout de suite fait penser à quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'anarchisme. Et liberté, quelles que soient les règles qui existent, le vampire est un anarchiste pour les règles en cours. C'est quelque chose que... Oui, vas-y.
Alors, je voudrais bien rectifier un truc.
Ouais.
L'anarchie, c'est pas de règles.
On est d'accord.
Hein, on va être clair. C'est... On accepte de suivre les règles qui bénéficient au collectif. On peut refuser de les suivre à titre individuel parce qu'elles t'oppriment particulièrement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de règles. Et tu peux te construire contre, à la limite, mais l'anarchie, ce n'est pas de tête au-dessus du collectif.
Non, non. Merci pour la précision.
Ce qui non, mais excuse-moi. Ouais.
Non, mais tu as bien fait, parce que après j'allais bafouiller. Non, c'est parfait. Mais du coup, oui, le vampire, enfin déjà, je pense que dans la représentation du vampire, on voit toujours quand même qu'il y a une espèce de communauté vampirique, etc. Mais l'aspect anarchisme là-dedans est assez...
Bah alors là, le vampire en tant que figure anarchiste, il va plutôt répondre à cette fausse définition de l'anarchisme qui va être contre les règles. Et c'est surtout depuis les années 80 et cette vague de films de vampires punk avec Génération perdue et Aux frontières de l'aube. Donc là, on arrive sur une famille de vampires qui semble à première vue s'affranchir de toutes les règles. Mais dans les deux films, on va quand même vite voir qu'ils vont devoir obéir chacun à un patriarche. Donc la liberté qu'ils semblent offrir au premier abord, on voit qu'elle est extrêmement limitée et extrêmement codifiée. Et ensuite, encore plus à la fin des années 80, il y a Lestat le vampire, écrit par Anne Rice, qui arrive. Et là, on a Lestat qui va encore une fois s'opposer, le rebelle, qui va arriver, déjà rien que son existence en elle-même est rebelle, puisqu'il a été créé en dehors des codes. Et il va aller contre les lois, contre le leader de Paris et contre les valeurs chrétiennes qui veulent que les vampires se terrent sous les cimetières et ne se mélangent pas avec les humains. Et il va complètement tout détruire, faire table rase et destituer le leader Armand en lui expliquant que tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Mais le problème, c'est qu'il propose pas spécialement de nouvelles communautés, de nouvelles solutions. Et l'esprit rebelle qu'il avait dans Lestat le vampire, cette liberté folle, finalement, Anne Rice pète tout à la fin dans Prince Lestat, où il devient un monarque, un leader, et que c'est plus du tout fun. Vraiment.
D'accord. Voilà. Bon. D'ailleurs, tu voulais réagir, je crois.
Pas spécialement, mais je peux compléter aussi.
J'ai vu un mouvement d'épaule, j'ai mal interprété, désolé.
Moi, je peux réagir, par contre.
Oui.
Alors, revenons un peu en arrière. Le vampire, à la base, c'est pas, malgré tout, malgré Sheridan Le Fanu et ce dont j'ai parlé, c'est pas, justement, c'est pas un anarchiste du tout, puisque l'image, enfin, là, quand Polidori, John William Polidori écrit l'un des romans de vampires qui vont donner ensuite une longue descendance, en fait, ce que ça montre, ce que ça rend de façon métaphorique, c'est les puissants qui s'abreuvent du sang du peuple. Moins anarch que ça, tu meurs quand même. Hein.
Oui, à quel moment ça bascule, du coup?
Et alors, ça bascule, justement, à peu près dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec notamment Anne Rice et... Stoker, il reste dans cette image, hein, clairement. Il n'est pas fun... Nosferatu, enfin je ne sais plus son nom, là j'ai un trou abominable. Il est totalement dans la domination, le refus du consentement, il n'en a rien à péter. Il est représenté aussi comme l'invasion extérieure, c'est la trouille de l'Angleterre par rapport à ces hordes de migrants qui se pressent à ses frontières. Ça me rappelle un truc. Il y a l'idée de la contamination aussi, de la maladie. Donc c'est pas là dans le vampire de Stoker, c'est tout sauf un anarchiste aussi. Ça bascule effectivement avec des histoires comme celle de Buffy ou d'Anne Rice. Pour moi, Anne Rice a été aussi une espèce d'éblouissement, mais parce que Rice, elle est arrivée pour moi à un moment où on enterrait ma génération à cause du sida. Puisque c'est ma génération est née, est arrivée à l'éveil, on va dire, sexuel, en même temps que le sida a foutu une claque à tout le monde. Sur la liberté, comment on appelle ça, sur la parenthèse enchantée, ça s'appelait à l'époque. La liberté sexuelle qui régnait dans les années 80-90. Et là, on a fait un peu n'importe quoi. Genre, vous savez, on vous dit, mettez un masque et puis vous ne le mettez pas. Hein, ben on n'a pas mis les masques qu'il aurait fallu et on a perdu énormément de monde. J'ai passé une bonne partie de 85 à 95 à enterrer des gens. Donc Rice écrit l'ESTA, elle décrit un mode de contamination qui est quand même furieusement similaire à celui du sida. Elle décrit des sexualités qui sont omnirégnantes. Pansexuelle, c'est-à-dire, elle imagine, et je suis bien d'accord avec elle, qu'on passe pas 500 ans bêtement hétérosexuel. C'est pas possible, on s'emmerde au bout d'un moment. Alors, donc on tente des trucs. Et tous ces vampires sont quand même massivement bi, pan, ou rien à foutre. Une commode en pire, comme elle a de jolis pieds. Voilà. Donc, voilà. C'est venu comme une espèce de libération à un moment où le rideau de fer tombait, en fait. Le rideau de fer de la mort. La vraie.
J'ai aussi quelque chose à dire sur le sujet, c'est que le vampire est un mythe avant d'être de la littérature, et c'est un mythe qui est vraiment protéiforme, qui a beaucoup évolué à travers les époques. On peut le tracer déjà à l'Antiquité, avec des créatures qui, à l'époque, étaient souvent des créatures féminines. Et aujourd'hui, on a beaucoup l'image, depuis Stoker, hein, vraiment, du vampire masculin. Ça a un peu évolué, mais c'est lui qui a vraiment mis cette entité masculine et qui en a fait le vampire dominant. Mais jusque-là, ce n'était pas forcément le cas. Et devenir vampire, c'était le plus souvent une punition. Une punition sur quoi ? Sur un rejet, souvent, du patriarcat. Et on voit ces femmes qui devenaient des lamias, qui devenaient des striches, des sorcières aussi, parce que le sorcière et le vampire ont été mélangés pendant des années, et les sorcières pouvaient devenir vampires. Et souvent, elles sont frappées du sceau de l'infamie en sortant des normes, en ne respectant pas le mari. Il y a beaucoup le côté de dévoration de l'enfant avant tout, et ça, on le retrouve chez Stoker, où les vampires boivent le sang des nouveau-nés. Donc, la maternité déviante est frappée du sceau du vampire. Donc finalement, sur le vampire, cette image-là, on y colle beaucoup, beaucoup de choses, et des choses très différentes. À la fois, tiens, la punition, si on sort des codes, à la fois le vampire qui représente ces codes de manière vraiment formelle. On parlait de Dracula, c'est exactement ça, c'est l'aristocrate. On est très, très loin entre Dracula et ces images de femmes qui sortaient des clous, et il y avait toujours cet avertissement qui était là. Donc finalement, sur la figure du vampire, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Le vampire dépend vraiment de son époque, de ce qu'on a envie de dénoncer à son époque, et on peut tout faire passer. C'est un être de projection, c'est un être qui est humain, mais sans tout à fait l'être, qui [S2] Oui. [S1] A été humain.
Et justement, Dracula, le personnage historique, c'était il est devenu très rapidement un vampire, mais c'était en fait de la propagande hongroise pour dénigrer son action. Donc c'était déjà politique, quoi.
Vlad Tepes était un psychopathe comme les autres à l'époque, mais il n'était pas plus...
Pas pire, non.
Ou pas pire ou moins pire. C'est... Et puis bon, ça, c'est vraiment à l'époque de Stoker où il lui a remis cette identité de Dracula sur le dos, en fait. On le présentait comme un monstre à l'époque de son vivant, mais je ne sais pas si le mot vampire était si développé que ça. Mais le vampire, voilà, et cette projection. Et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on peut tout y mettre. Et c'est à la fois la figure du conservateur et la figure de la liberté. Et c'est une créature, bah oui, et finalement, j'adore le film de Coppola pour ça, parce qu'on passe du même Dracula qui est le conservateur, l'aristocrate par définition, et puis finalement, qui est un rebelle contre son époque et contre la chrétienté. Et ça montre que même le même personnage, selon l'interprétation, peut varier du tout au tout.
Et d'ailleurs, Stoker a pris quelques libertés, vu que c'était un sacré défenseur de la chrétienté à la base, le Dracula. Mais bon, bref, il faut bien faire des romans et tricher un petit peu, sinon c'est pas drôle.
Ouais, moi je voulais revenir à ce que disait Jeanne sur le vampire et le sida. Et quand tu parlais de Anne Rice et de son vampire homo qui est vraiment tombe à cette époque-là, quelque part le vampire, alors que le gay meurt à cette époque-là, Anne Rice lui offre l'immortalité. Et il y a d'autres œuvres qui me font encore plus penser au vampire sida, le vampire qui meurt. C'est des œuvres comme Les Prédateurs, où là on a effectivement un vampire qui va dépérir, qui va être atteint des signes de la maladie, qui va se rendre compte que son immortalité qu'on lui a promis, bah, finalement elle n'est pas là. Et il y a aussi, alors je crois que ça date des années 90, pas des années 80, mais il y a les romans de Jeanne Fèvre d'Arcier, où aussi les vampires sont atteints d'une maladie dégénérative qu'ils n'arrivent pas à contrôler, et ils en cherchent le remède. Et c'est vraiment intéressant cette idée de l'immortalité qu'on tue, voilà, et qui est vraiment fait penser aussi à...
D'ailleurs, ce thème de l'immortalité, c'est pas... Enfin... Je ne suis pas un très très grand lecteur assidu de vampirisme, alors vous me corrigez si je dis des bêtises, mais c'est un sujet assez récent de focaliser sur l'intérêt d'être, de devenir un vampire pour être immortel. Avant, c'était juste le monstre horrible qu'on chasse et qu'on ne veut pas être. Et puis à un moment, là, ça devient presque un objet de désir qui montre peut-être une évolution de la pensée actuelle, peut-être un peu flippante d'ailleurs.
Oui, bah, c'est depuis Anne Rice, puisqu'elle commence depuis Anne Rice, c'est Fred Saberhagen, Les Confessions de Dracula, je crois qu'il a écrit les deux, qui a aussi écrit en 1976.
Et un ami de la famille, je crois.
Oui, c'est ça, oui. Et du coup, c'est les deux premiers à faire parler le vampire à la première personne, et on commence à s'identifier, le vampire devient humain, et à partir de là, on veut être lui, on convoite ses pouvoirs au lieu de les mépriser. Le vampire n'est plus l'étranger, il est soi-même.
Et le prix à payer, ça va, c'est pas trop cher?
Bah, un petit peu quand même.
Mais c'est toute la question, parce que le vampire du Moyen-Âge notamment, il y a aussi cette peur du revenant, parce que le vampire, dans certaines légendes, parce qu'encore une fois, c'est Stoker qui l'a consolidé, qui l'a cristallisé, mais c'est plein de choses différentes, qui ont plein d'origines différentes, et là on parle que du vampire occidental, on ignore déjà l'Orient, l'Extrême-Orient, l'Amérique, où il y a encore des vampires qui diffèrent. Donc là on vraiment se sent dessus, et c'est déjà très vaste. Et il y a cette peur du revenant, de la personne, de la famille qui revient pour nous hanter. Mais cette peur, en même temps, c'est aussi très rassurant. C'est les personnes chères qu'on a perdues peuvent revenir et peuvent être immortelles. Et peut-être qu'un jour, soit aussi, on peut accéder à une immortalité et quelque part à échapper à la dualité chrétienne. Parce que vraiment, au Moyen-Âge, c'est... une fois la mort, c'est le plus souvent l'enfer. Et le vampire se pose... en extérieur par rapport à cette notion-là, puisque certes, ce qu'il vit, c'est pas très jojo, mais en même temps, il n'est pas en enfer, il est sur Terre, il est coincé, et ça peut être beaucoup plus rassurant d'avoir ce potentiel-là. Donc à la fois, on le craint, mais en même temps, peut-être pas tant que ça, et c'est facile de retenir un vampire, de ne pas le faire entrer, il suffit de mettre de l'ail ou des choses comme ça, il y a beaucoup de légendes très différentes, on peut aller le poignarder dans son cercueil, enfin, il y a plein de choses à faire contre les vampires. Donc c'est un monstre, mais c'est pas un monstre si effrayant que ça et si dévorant que ça. Et c'est un monstre qui fait revenir les personnes qu'on aime. Dans ce sens-là, je pense que la notion d'immortalité, certes, elle est à la première personne récente, mais elle a été là pendant un long moment.
Jeanne ?
Alors, Il y a deux choses que ça me donne envie de dire, ce que vous venez de dire. C'est, la première chose, c'est que quand même, des trois types d'humains transformés, le vampire, le zombie, le loup-garou, le seul dont qu'on montre où le protagoniste a envie de devenir l'autre, c'est le vampire. Hein, je me rappelle pas de roman où on supplie pour devenir un loup-garou ou on supplie pour devenir un zombie. Hein. Encore moins le troisième.
Moi, loup-garou, je vote pour.
Alors que c'est discutable, en effet. Hein,
il y a débat.
Ouais, ça pourrait quand même. Franchement, aller courir à poil dans la forêt tranquillement, waouh, c'est cool.
J'habite près du bois de Vincennes.
Voilà. C'est... Alors, le truc, c'est que les loups-garous ne sont pas immortels, effectivement, et ça m'amène à ma deuxième réflexion. C'est que l'immortalité a très mauvaise presse pendant très longtemps dans les récits. En général, l'immortalité, c'est un truc, c'est presque une punition telle que c'est décrit, et de toute façon, c'est la fin de la civilisation ou de l'humanité. Hein, on va tous mourir d'ennui, on va tous décider dégénérer lentement, etc. Il y a très peu de récits qui envisagent, à part la culture peut-être de Yann Bans, je crois qu'ils vivent très très longtemps, je ne sais plus, ou qui envisagent que pendant des milliers d'années, on peut continuer à rire, boire du vin, apprendre, découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux arts, se mettre à la poterie, à la broderie, devenir un champion de macramé. Enfin, il y a toutes ces choses qui ne sont pas à la portée de la réalisation d'une vie humaine deviennent accessibles, en fait. Et j'ai jamais vraiment compris...
Tes souhaits ?
Ça serait vachement bien si j'étais un vampire, parce que là, je...
Merci encore, pas à... ça. Merci encore à Claude et à ses...
Bravo, Claude.
De toute façon, c'est la contamination, on en y revient. Donc, Claude et Ken est un vampire, tout le monde a compris et a suivi. Sortez les fourches. Donc voilà, on se retrouve dans une configuration où l'immortalité devient souhaitable, effectivement. Et c'est anti-chrétien au possible, effectivement, aussi.
Et en plus, je me rappelle...
Parce que c'est pas Dieu, quoi. C'est Dieu, il n'y a que Dieu qui...
Par contre, l'idée de... Ça devait déranger un petit peu Anne Rice, quand même, parce que je me rappelle que ces vampires ont tendance à oublier.
Ouais, et puis ils ont tendance à mourir après 400 ans. Mais alors, elle explique par la perte des racines, et ça, c'est quelque chose que auquel j'ai souvent réfléchi et que je peux comprendre, parce que, par exemple, moi, je vis en Allemagne, à Berlin, et c'est vrai que quand tu es dans, entre guillemets, une culture étrangère, bon, c'est pas très spécialement étranger, hein, ça reste l'Europe, mais c'est vrai que souvent, je vais être bien contente de croiser d'autres Français, de partager une culture commune. On a chacun notre propre culture, notre enfance, nos références. J'aime bien faire des blagues des inconnus, par exemple, avec d'autres Français quand je les vois. Et j'avoue qu'en Allemagne, c'est un peu compliqué. Donc, je peux comprendre que quand tu as dépassé 100 ans, que tu n'as plus personne qui est né à ton époque avec qui tu peux avoir des références communes, ça doit être très, très dur et très, très triste. Et je peux comprendre que c'est vraiment ce truc-là qui fait que l'immortalité pourrait devenir pas souhaitable.
Chérie, si je me rappelle bien, quand même, à Kasha, elle suit son mari dans la pétrification parce qu'il insiste, en fait. Alors que c'est elle la plus forte du couple, c'est le moment qu'elle choisit d'obéir, cette conne. J'ai jamais compris non plus.
C'est pas très logique.
Bon, elle n'est pas spécialement futée, la reine des vampires, la reine des damnés. Hein. Elle est quand même sacrément bourrine et ils le lui disent à la fin. Que ses solutions sont toujours simplistes, que ses visions du monde sont toujours ridicules. Mais voilà, elle a je ne sais pas combien de milliers d'années au moment où elle décide de s'endormir dans le sommeil de pierre dont seul le baiser de l'Esta, miam, 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 la réveillera. Oh tiens, un beau jeune homme. Finalement, ce n'est pas si bien, le vieux mari. Mais elle décide de le suivre et ça, je... Voilà. Malgré le fait que c'est quand même un protagoniste qui fait toujours les mauvais choix. Celui-là, je le comprends pas.
Oui. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Anne Rice a révolutionné un petit peu le vampire. Bon, elle a aussi un petit peu déçu parfois dans ses choix d'évolution. Par contre, vous m'avez parlé d'un roman d'elle qui était assez... outre la série de Lesta, là, qui était assez marquant et...
Le roman sur les castrats, peut-être,
je sais pas. Oui, je crois que c'est...
La Voix des anges. Oui, oui, c'est, oui, c'est superbe, ça, c'est superbe. Et je recommande.
Donc, voilà, c'est inégal, mais faut pas rater Anne Rice, quand même. Hein.
Oui, non, faut vraiment les sélectionner, Anne Rice, parce que c'est intéressant de voir comment une autrice peut commencer très fort, se casser la gueule, repartir très fort et se recasser la gueule. Comme quoi, c'est... Ah bah,
c'est un espoir pour tous les auteurs.
Déjà,
pas un modèle à suivre.
Cet adorable Stephen King qui est mon idole à jamais, il y a des moments, des trucs qu'il pourrait oublier. Hein.
Tommy Knocker, par exemple.
Par exemple, tiens, voilà, celui-là, là.
C'est grâce à ça que je me suis mis à écrire, je me suis dit que je pourrais pas faire pire que ça. Mais...
Non, il y en a un où ils perdent, ils maigrissent.
Sac d'os.
Ouais, je bien me sac d'os. À la page
ça, non, ah ouais, ça m'a pas plu du tout.
Mais c'est le tout premier que j'ai lu de lui en fait. Du coup, ah
bah, voilà, c'est ça.
Attention, j'avais 10 ans, on est un peu hors sujet là, je crois. Attention, attention.
On s'éloigne.
Mais du coup, alors, le vampire, on fait un petit bilan. Il est pas si effrayant que ça. Il vit parmi nous parce qu'on est son buffet à volonté, donc forcément, faut pas être trop loin. Est-ce qu'il arrive à vivre parmi nous? Il y a des cas où il vit parmi nous tout court et ça se passe bien. J'ai beau chercher, j'en ai pas trouvé énormément où ça se passe. Si peut-être la série qui était sortie où les vampires sont parmi nous et vont acheter du sang en magasin. Là,
oui, True Blood.
Tu l'as vu cela?
Oui, True Blood.
Oui, mais enfin ils n'arrêtent pas de tricher. Hein, dans True Blood.
Ils sont pas acceptés.
Je ne regarde jamais aucune série, donc je pose la question.
Oui, bah ça pose le problème de l'intégration et à travers le vampire, du coup il y a la métaphore des homosexuels et des Africains américains. Mais attention, une métaphore à prendre avec des pincettes parce que au début on nous dit qu'il faut être tolérant, qu'il faut accepter les autres pour leurs différences. Et tout au long de la série, même les personnages de vampires plutôt sympathiques vont commencer à faire les pires crassouilles et être pas du tout... on peut vraiment pas leur faire confiance. Donc s'ils continuent à être la métaphore des Africains-Américains, je trouve ça un petit peu limite. Hein, donc il faut quand même prendre... D'accord. Et je pense qu'Alan Ball, je crois qu'il l'a déjà précisé, attention, cette allégorie est juste comme ça, un petit coup de pub, mais pas, faut pas y aller trop non plus. Quoi.
Et alors par contre, bon, on a vu l'évolution là, du vampire. Alors, le vampire, on l'utilise un peu en science-fiction, mais est-ce que c'est le même vampire? Est-ce que on est toujours sur... comment on fait évoluer le vampire en SF, quoi?
Alors, en science-fiction, ça commence par être des bestioles de tout genre, le vampire. Hein. On a tout, spécialement des fleurs, vampires, mais aussi des champignons. Il y a un passage tique quelque part, je ne sais plus où.
Ah, la tique, c'est sympa, ça.
Mais c'en est un. Hein.
C'est attachant. Voilà.
Par contre, les tiques, les puces de l'espace, on n'a pas eu. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu?
Attends, si. Puce, dans un Capitaine Flamme, il y a des espèces d'extraterrestres qui boivent du sang et évidemment, Capitaine Flamme sauve tout le monde en leur faisant du sang de synthèse qui marche. Et il décide d'arrêter de manger les gens et donc de prendre du sang de synthèse parce que...
C'est mieux.
C'était, tu vois,
Bah, celui-là, je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'entité d'outre-espace, d'outre-temps, façon Cthulhu, mais qui a besoin du sang des gens, on ne sait pas très bien pourquoi.
Vampire de l'espace.
Voilà, le vampire de l'espace. Et ceux-là, en général, le protagoniste n'a aucune envie de devenir comme eux. Hein.
Voire pas la possibilité pratique.
Ni, d'ailleurs, on ne lui donne pas le choix. Le vampire de science-fiction, ça commence vraiment... Il y a True Blood, qui est effectivement un vampire de science-fiction, dans le sens où... déjà, c'est dans le genre du chrony. Hein, ensuite, c'est dans le monde moderne. On a une vision très, très historiciste de leur existence. Le coup du True Blood qui... ça marche. En fait, je crois que Rice, avec son idée d'esprit qui sont absorbés par le corps d'Akasha et son époux, c'est quand même curieux, je ne me souviens jamais du nom du gars.
Ankyl.
Ankyl
l'enculé.
Mais voilà, tu vois, c'est...
Je suis fatiguée.
Voilà, c'est facile, oui.
Il y a du public. Hein.
Merci, Morgane. Je ne l'oublierai jamais. Et donc, du coup, ils absorbent les esprits qui étaient en atmosphère, on n'est pas loin de la science-fiction.
Oui, alors bah, justement, à la fin, alors, j'ai pas lu les dernières Anne Rice, mais on apprend que c'était des extraterrestres ou des Atlantes, si je... Des esprits-là, en fait, je me rappelle plus trop dans quel ordre c'est, mais les extraterrestres seraient des Atlantes, et en... je crois que le Hamel, l'esprit originel, viendrait d'un des deux peuples, ou aurait été un esprit sur lequel alors, les deux peuples auraient fait des expériences, enfin, je me rappelle plus.
Je pense qu'on peut dire que là, on a une leçon d'écriture, essayez pas toujours d'expliquer tout dans vos romans parce que des fois ça marche pas.
C'était une erreur, je crois.
Non, c'est mieux quand on explique pas. Mais j'aimais bien quand même le coup originel, la base de l'esprit qui se fait avoir par une invocation, une lourpe, et qui du coup a besoin de s'étendre. Voilà. Chez Butler, il y a un petit truc de ce genre-là dans le motif. Alors d'abord, il y a un roman de vampire chez Butler, mais je ne l'ai pas lu.
Moi, je l'ai lu, Novice.
Ah, ben, parle-en, hein, ouais. Tiens.
Déjà, c'est une vampire noire, ce qui, à l'époque, était quand même assez rare. Et alors, elle renverse tous les codes du vampirisme. Elle développe plein d'idées très originales. C'est très, très bizarre comme lecture, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis là, c'est très actuel hein, parce qu'on a de plus en plus de séries comme Lovecraft Country, Zem, les films de Jordan Peele qui commencent à mélanger culture africaine, américaine et fantastique et qui vraiment remettre à l'honneur des œuvres d'Octavia Butler ou l'œuvre de Toni Morrison qui étaient des précurseurs du sujet bien avant que ça soit bankable, entre guillemets.
Je me rappelle aussi. J'ai oublié le titre, évidemment, mais il y avait dans la série Terreur, les romans à couverture noire qui étaient chez Folio, je crois.
Pocket Terreur.
Il y en avait un qui n'était pas spécialement bon, mais ça m'avait fait assez rigoler. Ça se passait aux États-Unis à l'époque, donc années 80-90. Et en fait, les vampires s'étaient reconvertis dans les peep-shows. C'était horrible. Et en fait, un vrai loser qui passait un peu trop de temps se retrouve vampire lui-même.
Et, ça s'appelle comment ça, je connais pas.
Ah bah, faut rechercher. Si quelqu'un a internet, allez chercher moi ça, s'il vous plaît. Mais c'était hallucinant. Et en fait, à la fin, ça redevenait plus dans le mythe du vampire avec le patriarche. Et en fait, plus les vampires vieillissaient, plus ils devenaient bons. Et le patriarche, c'était un vrai saint. C'était un truc... pas très bien écrit, mais il y avait des vraies idées dedans que j'ai jamais revues ailleurs.
Alors attends, laisse-moi résumer. On part du pipshow à la béatification.
Oui,
ouais, c'est cohérent, moi je dis.
Ah non, mais ça marchait.
Oui,
donc
oui.
On n'est peut-être pas allé assez loin
dans le
vampire. Et si on vous demandait là d'aller beaucoup plus loin dans le vampire, vous n'avez pas des petites idées en ce moment sur le sujet?
Peut-être juste pour finir sur la science-fiction, il y a un film qui était pas mal du tout, c'était Daybreak, je crois, où c'était...
Daybreaker,
c'était ça. Où c'était justement un peu dystopique, où les vampires avaient pris le pouvoir et géré les humains comme une ressource finalement alimentaire qui était limitée. Et donc il y avait une nouvelle vision de la chose. Le film n'est pas extraordinaire, mais je pense qu'en SF vampirique, c'est un peu ce que j'ai vu de mieux parce qu'il n'y a pas grand chose de bon en fait. C'est aussi ça le souci. C'est en film, hein, je parle.
Oui, en film. D'ailleurs, Jeanne, toi qui avais dirigé Vampire à contre-emploi.
Je ne vais pas parler de ça, je vais parler de Vision aveugle de Peter Watts.
Ah, bah si, t'as mieux.
Voilà. Là, déjà, c'est le vampire de science-fiction le mieux que j'ai vu. Alors, j'étais en train de chercher.
Mets ton micro.
Oui, pardon. J'étais en train de chercher sa date de parution.
Et c'est pratique.
C'est 2009. Il a eu le prix George Wood Campbell Memorial. Le prix qui a été renommé après, voilà. Et donc, c'est des astronautes dans l'espace qui rencontrent quelque chose qui ressemble quand même pas mal à Alien. Et après, voilà. Enfin, pas physiquement, hein, mais ça commence comme le huitième passager et ça finit comme Dracula, quoi.
Ah, d'accord.
Voilà. Enfin, ça, j'exagère un peu. Je fais un résumé très, très, très sec.
Alors, j'ai retrouvé le titre. C'est Live Girls en anglais ou Extase sanglante de Ray Garton.
Ah oui, Ray Garton.
Ah oui. Alors, ce qui fait quand même l'intérêt et le fun du roman de Watts, c'est les explications. Pour le coup, tu vois, je suis d'accord avec toi sur le fond. faut jamais expliquer, sauf Peter Watts dans Vision aveugle, parce que c'est une vraie partie de rigolade.
Mais involontaire
ou... Ah non, à la fois volontaire et involontaire, je ne sais pas comment dire, c'est une grande réussite de Watts. Alors il part du... Il y a un passage sur les Néandertaliens, je me rappelle aussi, tout comme... Voilà. Faites-le. Non, mais voilà. Là, j'arrive pas parce que je suis vraiment trop.
Mais quand même, prenez des notes.
Trop contaminée, mais
on vous a
faut
donné
lire
des bonnes
celui-là.
Références. Vous avez des bonnes références là-dessus. Et donc, moi, je suis toujours sur mon vampire de demain. Imaginez, parce que je suis pas un grand spécialiste de la chose, mais dans le cadre d'une anthologie particulière, j'ai dû m'y coller. Merci. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais en faire un moteur de la conquête spatiale. Donc, en gros, pas de conquête de l'univers sans avoir un vampire à bord, ce qui peut poser des problèmes de huitième passager. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on peut pas réexploiter le vampire, justement, en se projetant un peu dans l'avenir, en essayant de lui trouver un rôle qu'on ne lui a pas encore défini?
Alors, moi, justement, je vais aller m'opposer à cette idée parce que je pense que le vampire de demain, ou plutôt le vampire des années de 2020, il va être un vampire postmoderne et un vampire du remake, parce qu'on va voir l'adaptation en série d'Entretien avec un vampire, alors le remake de Nosferatu, on a eu la série Midnight Mass, qui est une sorte de remake informel de Salem Lot avec des thématiques très religieuses comme dans Anne Rice. Donc, un vampire postmoderne qui va pas revenir vers quelque chose de très nouveau, qui va revenir vers des choses qu'on connaît et pas des choses très nouvelles.
J'ai vu une mini-série, mais c'est de ça que tu parlais, de Midnight Mass, qui était quand même assez hallucinante dans le sens où, effectivement, il y avait des thèmes religieux très forts. Donc, en gros, c'est un curé qui rentre de voyage en Terre Sainte, mais vampirisé. Et il est persuadé qu'en fait, il a rencontré un ange. Et il veut convertir, par amour de Dieu, toute la communauté. Voilà. C'est assez exceptionnel. Même quand on est à peu près métaphysique comme une table basse, ce qui est mon cas, et que le mystère de la foi, je m'en carre, mais d'une façon qui tend au cosmique, et bien même là, vraiment, le gars qui arrive et qui, par amour de l'humanité, par croyance absolue dans la divinité, foudroie tout son village, c'est juste what the fuck. C'est génial. Hein. Ça marche très bien. Mais là, c'est le dernier vampire qui m'a impressionné, celui-là. Et il y en a un autre, mais je ne me souviens pas du titre. C'est en fait... ça raconte le tournage de Nosferatu avec Murnau.
Le masque du vampire, je crois.
Le masque du vampire. Et là, c'est exceptionnel parce que, en fait, le message du film, c'est quand même le vrai vampire, c'est le réalisateur derrière sa caméra. Et c'est ça, ce film-là, il faut le voir. C'est un des plus grands films de vampires que je connaisse.
Récemment, on en parlait avec Morgane juste avant, c'est la dernière saison d'American Horror Story. La partie Wet Tide, donc Marée Rouge, elle est juste extraordinaire parce que là, il y a une réinterprétation du vampire et c'est pas un remake parce que les remakes, effectivement, c'est bien beau, mais il y en a toujours eu, Dracula, il y a eu des remakes et des remakes, il y en a tellement, on peut pas les compter. Mais là, justement, ça sort des clous et ça montre qu'on peut encore réinterpréter le vampire aujourd'hui parce que. Je vais pas spoiler trop, parce que je vais juste dire le pitch, parce que ça vaut vraiment la découverte. C'est dans une petite ville très gaie des États-Unis. C'est Ryan Murphy. Ryan Murphy parle beaucoup de communauté queer. Oui, G-A-Y. C'est Ryan Murphy. C'est gay as fuck, si tu veux. Et on a cet écrivain qui se retrouve, enfin ce scénariste qui se retrouve là-bas avec la panne de l'inspiration. Et on lui propose une petite gélule qui donne cette inspiration qu'il faut. Mais la gélule ne fonctionne que quand on a déjà du talent à la base. Et un des effets secondaires, c'est qu'on a très soif. Et on ne parle pas d'alcool, on parle de sang. Et c'est génial de voir ce compromis qui est fait où... la personne, en développant son artistique, change complètement et se transforme et devient une parodie d'elle-même, mais en même temps en touchant au génie, parce que le génie est là, mais c'est un génie qui est nourri de soi-même et va consommer les autres, et notamment ceux qui n'ont pas ce même génie. Et c'est aussi une critique d'Hollywood. Il fait beaucoup ça, Ryan Murphy, dans ses séries. Et c'est vraiment bien écrit. C'est à la fois sur le côté artistique, avec un côté très Nouvelle-Angleterre, l'hiver. C'est génial à voir. Je le conseille vraiment. C'est l'une des... dans les derniers temps, des meilleures interprétations de vampires que j'ai pu voir.
C'est une des meilleures saisons d'American Horror Story, qui est quand même très, très inégale.
Complètement.
Ok. Moi, je suis encore un peu resté sur ma faim sur le futur, parce que tu m'as un peu déçu avec ça, mais je me dis que les vampires... Oui, vas-y. Alors,
juste pour emmerder.
Oh, merci.
Quand j'envoie Navarre dans l'espace, il est très, très malheureux. Parce que les rayons du soleil vont tenter d'échapper. Hein,
ah là, ça
voilà.
Prend du boulot.
Et donc, il passe son temps à griller sur sa station spatiale et à régénérer en même temps. Et c'est juste l'enfer.
Ah bah,
voilà. Donc, il n'y reste pas dans l'espace.
Mon vampire de l'espace servait aussi de détecteur de radiation. Dès qu'il commençait à bronzer, c'est qu'il fallait vite se planquer dans... du coup, on n'a pas le temps d'aborder les autres vampires dans le monde entier, mais est-ce qu'on a des moyens de faire des crossovers de vampires ou profiter du fait qu'on est sur une mondialisation pour... parce que le vampire, il est assez politisé, en fait. D'abord, on dénonce le riche qui mange les pauvres. Ensuite, on est plutôt sur de l'anarchisme pour lutter contre un gros patriarcat. Et puis, il y a l'aspect sidacarment. Donc, il y a toujours un côté société. On est dans une société, donc le vampire, il va s'y adapter. Ça ne va pas être simplement Hollywood qui fait des copies de mauvais films des années 70 ou même de bons films. Donc là, on n'a pas un terreau fertile avec nos problèmes de mondialisation ou de pollution ou de je ne sais quoi. Vous entreverriez quelque chose ?
Alors, tout à l'heure, on a pas mal parlé du vampire du futur qui peut être des tiques, des petits pois, des spaghettis, je ne sais pas, whatever. Mais en fait, le vampire, ce qui est intéressant, c'est de le placer par rapport à une société. Le vampire, on l'a montré tout à l'heure, est une projection sociale, en fait, quelque part. Ça peut être l'ultra-conservateur, ça peut être le libertaire absolu, ça peut être ce qu'on place dessus. Mais souvent... Et non, enfin, tout le temps, le vrai vampire est à la marge. C'est un personnage qu'on exclut, qui est sorti et qui interroge sur la société de laquelle il est exclu par contradiction. Ce qui fait que avoir une créature qui boit du sang, oui, l'adjectif vampire correspond, mais pour moi, ce n'est pas du tout un vampire. Et les vampires de l'espace, ça n'a pas forcément d'intérêt dans ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est à quel point ça interroge sur la société. Le vampire fait partie d'un tout. Il est en opposition par rapport à quelque chose. On ne peut pas juste le considérer indépendamment. Une créature vampire par essence, ça ne fonctionne pas très bien. Moi, par exemple, dans Unrise, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas l'aspect que je préfère quand ah oui, c'est telle créature qui les explications. Non, ce qui est intéressant dans Unrise, c'est de voir ces personnages qui sont à contre-culture de façon qui peuvent être totalement différentes. Akasha est une terroriste, enfin, elle a une vision très fasciste de la chose et elle veut tout réformer. Lestat est au contraire un grand libertaire. On a pas mal de choses qui sont différentes, mais qui s'inclut dans une culture, et le vampire est là pour interroger par contradiction. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais en tout cas, je pense que ça donne une interprétation de ce qu'on peut faire. C'est pas parce que science-fiction qu'on doit faire une créature étrange de l'espace. Pour moi, le vampire est social et il va plutôt interroger sur la science-fiction sociale, où ça va être par rapport à sa société. C'est pas créer des nouvelles bestioles, ça peut être sympa d'avoir cette explication autre, mais ce qui va compter, c'est l'humain par rapport à ça, en quoi il y a une opposition, et l'opposition, elle peut pas simplement être biologique et être rapport de prédateur, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à mon sens.
Oui, Jeanne, tu voulais rebondir.
Alors, je voulais préciser une chose, le petit pois vampire de l'espace, en fait, c'est plutôt une vieille lune, hein. C'est le moment où les auteurs de science-fiction américains de l'âge d'or essayent de récupérer le truc en lui donnant une vague justification rationnelle. Après, très très vite, on se retrouve dans la problématique que tu soulèves, à savoir qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que c'est être vampire, quelle est la frontière entre les deux et pourquoi est-ce qu'on peut décider être l'un ou l'autre. Et finalement, c'est qui le vrai monstre là-dedans ? Celui qui assume sa prédation simple, on va dire, ou celui qui fait une prédation collective. Je vous laisse choisir duquel je parle, hein, au milieu. On est dans... le vampire moderne est clairement une métaphore de l'être humain dans certains états. Après, tu perds le petit poids vampire de vue, c'est pas grave. Et personne ne le regrette. Hein. Mais en fait, c'était une espèce de faiblesse, entre guillemets, de la science-fiction de l'âge d'or. Parce que, quelque part, en reprenant le thème du vampire, il franchissait un tabou. Un tabou intellectuel posé par les Lumières qui les empêchait de le reconnaître comme autre chose que superstition sans intérêt. C'était les auteurs de SF de l'âge d'or sont des matérialistes, sont des progressistes au sens le progrès nous sauvera. Ce sont des voilà. Et donc injecter de la mythologie, de la fantaisie, du fantastique dans le courant du récit science-fictif, dans la spéculative fiction, ça pouvait passer que par des trucs vaguement motivés rationnellement. Voilà. Après, de mon point de vue, je suis absolument d'accord avec Morgane, cette Morgane-ci, mais celle-là aussi, sûrement.
T'es pas d'accord avec moi, quoi.
Si, toujours, ma chérie, toujours. Je te paye une bière, tu verras. Je serai encore plus d'accord avec toi. On n'est pas dans une vision qui externalise le vampire tout le temps. Voilà. C'est juste un petit temps dans l'histoire de la littérature de SF où le vampire de science-fiction est refilé aux voisins. Ouais.
Alors par contre, on avance dans le temps, puis vous avez peut-être des questions. Donc on va faire tourner le micro.
Alors bonjour, j'ai une question sur un livre qui est mal aimé, je sais, mais Twilight. Et j'aimerais justement parler tout de même d'un truc que je trouve très intéressant dans ce livre, qui est justement la vision qu'a Stéphane Meyer de ces vampires, qui sont presque des religieux. C'est un monde très hétérosexuel. On ne fait pas l'amour avant le mariage. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez justement de la vision des vampires de Stéphanie Meyer.
Qui veut répondre?
Je peux, ou...
Alors, qui c'est qui va crier le plus fort? Je pense que c'est toi, t'es plus en forme. Vas-y.
On s'excuse à l'avance.
Alors, mon premier roman dans les veines a été vendu comme l'anti-Twilight, parce que vraiment, je ne supportais pas cette vision à l'époque du vampire. Et c'est vrai que c'est hyper religieux. Édouard Cullen qui s'expose au soleil et qui brille, ça ressemble à un tableau de l'ange Mormoni, pareil, qui se révèle à Joseph Smith et qui l'illumine de ses lumières et de toute sa toute-puissance. Et pareil, Édouard va apprendre la vie à Bella et cette pauvre innocente qui n'y connaît rien et la remettre dans le droit chemin et dans les bonnes valeurs mormones familiales. Et moi, je trouve que ce livre est extrêmement, extrêmement, extrêmement dangereux. Moi, on peut me reprocher, je fais des choses horribles, mais les méchants sont punis. Il y a quand même toujours une sorte de... Je pense qu'on peut écrire n'importe quoi, mais du moment, il faut quand même que l'auteur ait une sorte de... On voit quand même un peu le point de vue de l'auteur sur ce qu'il écrit. Et alors, clairement, Stéphanie Meyer n'écrit pas des choses excessivement trash, mais quand on pense que vraiment, il y a des messages pro-life vraiment durs dedans, enfin, quand on voit que Bella risque sa vie, l'enfant, la mange de l'intérieur, risque sa vie. Enfin, je crois que l'enfant né par une césarienne qui lui fait avec les dents, et envers et contre tout, elle décide de garder cet enfant alors qu'elle est en train de mourir. Et le film, d'ailleurs, il est horrible, enfin, il est amaigri, machin. Enfin, je suis désolée, mais ce n'est pas des thématiques pour une fillette de 12 ans, enfin, je trouve. Voilà.
Ça, ce passage-là, moi, pour moi, c'est abominable. C'est dans ces moments-là que... J'aurais tendance à devenir fasciste à mon tour et faire disparaître ces bouquins. J'ai bien dit j'aurais tendance. Hein,
on se retient, oui.
Mesurer le conditionnel. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Et le problème, c'est que c'est très difficile d'écrire pour l'avortement face à ce genre de récit anti-avortement. Parce que dans quel univers on peut écrire un récit porteur là-dessus? Alors que encore maintenant, le fait d'avorter est continue d'être discuté pied à pied, même à l'Assemblée nationale à Paris, où tous les jours, moi, j'ai peur de voir arriver la vague texane où on surveille les femmes. Ils ont quand même réussi un truc abominable. Ils font surveiller les femmes par les citoyens, là, au Texas. C'est-à-dire que si ton voisin te soupçonne d'avoir avorté, il peut te dénoncer, et on paye ton voisin pour le faire. Et pourquoi ils font cette saloperie? Parce que si c'était eux qui surveillaient les femmes, ça serait anticonstitutionnel. J'adore ce genre de putritude technique de la loi. Alors bon, ça vient de sauter parce qu'il y a quand même un juge fédéral qui a dit non, 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 là, il ne faut pas déconner. Ça ne marchera pas. Techniquement, ça se défend, mais non. Oui, mais non. Mais c'est, voilà, pour moi, Stéphanie Meyer, c'est vraiment le truc qui n'aurait pas dû exister. Mais ce n'est pas le seul. Hunger Games, où il n'y a pas de vampire, ça ne me plaît pas non plus. Il y a toute une série de films et romans de jeunesse qui enseignent aux gosses et qui le démontrent de façon très lourde. L'anti-vie collective, l'anti-respect de tout le monde. La survie du plus fort, au nom de on ne sait pas quoi. Bref, voilà. Grrr.
Bien, est-ce une question
Je voudrais revenir en fait sur le futur du vampire. En fait, vous avez adopté, parlé vraiment de ce futur un peu incertain qui se déploie devant lui en passant vraiment de parasite. Mais est-ce qu'on pourrait pas envisager que le vampire, au final, rentre dans une relation de symbiose mutualiste, en fait, avec la société? Et qu'en fait, il y ait une sorte de collaboration consentante, au final. Personnellement, je n'ai pas trouvé encore d'exemple.
Dans Novice d'Octavia Butler, il y a cette idée.
D'accord. Bah oui, non, mais je pensais que ça pourrait être intéressant, en fait. Hein.
Ah bah, parce que c'est peut-être sous-exploité.
Un roman d'Octavia Butler, c'est forcément intéressant, vas-y. Je n'ai pas lu celui-là, mais tous les autres étaient bien.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est peut-être une thématique pas très exploitée. Il y a quelqu'un devant, par exemple.
Je voulais juste rajouter, si vous voulez un film de vampire, cherchez Blood Red Skies. Voilà, un excellent film sur les vampires.
Bien, tout le monde prend des notes. Hein. Qui
Bonjour. Donc on parle du vampire bas de gamme dont on ne veut pas entendre parler. On évoque peut-être un espoir de symbiose. Encore au-dessus, pour moi, il y a les vampires de Only Lovers Left Alive de Jean Jarmusch qui sont des esthètes et ultimement des gardiens de la mémoire qui donc viennent en aide à toute l'humanité, qu'elle soit humaine ou vampirique. Cela, vous en pensez quoi de ces vampires-là?
C'est le plus beau roman de vampire jamais fait. Voilà.
On peut redonner le titre pour être sûr.
Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch.
Voilà.
Voilà. Alors, je fais un sale coup à mes troisièmes latinistes. En général, je leur passe. C'est dur pour eux parce que c'est un film contemplatif. Ils sont jeunes, ils ne sont pas du tout habitués à ce genre de rythme. Mais c'est le cadeau de fin d'année que je leur fais en général, depuis qu'il est sorti.
T'es méchante.
Ah, mais j'ai aucun remords de cette fine peine.
Une dernière.
Oui, bonjour. Merci pour cette conférence. La question que je voulais vous poser, vous avez donc parlé du vampire qui pouvait aussi bien être un élément conservateur contre les éléments progressistes ou au contraire un élément progressiste contre les conservateurs. Donc que le vampire pouvait être aménagé à toutes les sauces. Mais je me pose la question, est-ce que justement la figure du vampire n'est pas là pour montrer en fait l'ennemi, l'adversaire, l'élément justement nuisible, parasitaire, au moment où il est écrit, où il est décrit, et en fait, simplement, des vampires comme on a fait Stéphanie Meyer ne serait que l'avatar en fait, de son temps, de sa lutte contre son époque.
Alors pour moi, un vampire est toujours ancré dans une époque, c'est ce que je disais, il est en contradiction avec l'époque. Mais il peut l'être à la fois dans quelque chose qui est dénoncé, mais quelque chose qui est aussi valorisé et fantasmé. Là, on parlait à l'instant d'Only Lovers Left Alive. Ils sont en décalage par rapport à cette société capitaliste. Il y a toutes ces notions qui sont là. Et on voit ces vampires qui sont magnifiques, mais dans tous les sens du terme. Et c'est plus une projection. Mais malgré tout, ils sont aussi à la marge, anormaux et en décalage complet avec leur époque, et ça fonctionne aussi dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on peut y mettre ce qu'on veut, mais c'est pas toujours une créature qui est l'ennemi ou une créature qui est le fantasme de ce qu'on voudrait. Ça peut être un mix des deux, ça peut être un mélange, c'est très ambigu, et c'est pour ça que le vampire continue de fonctionner après aussi longtemps. C'est que ça, c'est la créature ambiguë et subversive au final par essence.
Oui, il y a une grande complexité par rapport à d'autres créatures qui sont plus ancrées dans un rôle. Je ne vais pas citer le loup-garou, mais généralement, il est un peu plus bourrin quand même. Bon, c'était la dernière question, mais en tout cas, vous avez été un public très gentil et très attentif. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à nos invités qui m'ont bien aidé. Parce que tout seul, j'aurais jamais réussi.
Futur, littérature, cybernétique, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.